Il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs.
Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous intéresser.
Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question.
Today's story, Neil, is about a food that a lot of people around the world eat for breakfast.
It's business.
La revue de presse du business de la bouffe.
Avec Olivier Frey.
Et Daniel Coutinho.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui s'en fiche du Nutri-Score. Bonjour Olivier.
Salut Daniel, bonjour à tous.
Alors Olivier, aujourd'hui nous avons avec nous Kelly Franck, cofondatrice et ancienne responsable scientifique des SIGA, experte du goût et de la transformation des produits. Salut Kelly.
Bonjour tout le monde.
Alors Olivier, Kelly, aujourd'hui nous allons parler des débats que suscitent les Nutri-Score, de la vision du PDG des Belles, des marques qui s'y mettent enfin au vrac, de la guerre de la saucisse entre la France et l'Angleterre, et on finit avec la technologie appliquée au vent et aux abeilles. On commence tout de suite avec deux articles qui reviennent sur les Nutri-Score, les premiers sur 20 minutes. Occitanie, le logo Nutri-Score menace-t-il des produits du terroir sous label ? Alors Olivier, qu'est-ce que nous apprend cet article ?
Alors cet article, il nous apprend tout d'abord qu'un rocamadour ou un jambon noir de porc de Bigorre, ils obtiennent un score Nutri-Score qui est assez peu flatteur, de D ou de E. Hein, donc généralement, tu vois un E, t'es censé pas acheter, logiquement. et par contre, un soda light qui va être plein d'édulcorants, lui, il va afficher un score B.
Intéressant.
Voilà. Donc c'est,
on
se pose des questions. Et c'est le cas aussi d'un fromage emblématique français qui est le Roquefort. Mmh. Et pour Jérôme Faramond, qui est le vice-président de la Confédération Générale du Roquefort, pour lui, à la base, Nutri-Score a été créé pour les plats cuisinés, pour évaluer les produits transformés.
On est d'accord.
Hein, donc ce qu'il dit, c'est que des progrès sur la valeur nutritionnelle du Roquefort, il n'y en aura pas. Mmh. Hein, il a ses qualités, des apports en calcium, et dont le Nutri-Score tient très peu compte, selon lui. Hein. Mmh. Et il met par contre en avant plus les acides gras. Donc du coup, forcément, le Roquefort a une mauvaise note. Mais dans le Roquefort, il y a du lait cru. C'est un peu la fierté aussi des fabricants de Roquefort. Et ça respecte la tradition, le terroir. Donc c'est un produit du terroir.
C'est clair. Et je pense qu'utiliser du lait cru, c'est la garantie de respecter la typicité culturelle et naturelle, comme tu l'as dit. Une vache qui pâture en Normandie ou dans les Juras n'a pas la même alimentation. Les herbes dans les prés ne sont pas les mêmes. Et c'est qui donne les goûts au lait et au produit fini. Donc la défense du lait cru est indispensable pour ne pas arriver des produits standardisés, comme avec les camemberts de Normandie, par exemple.
Voilà, et du coup, ce qui se passe, c'est que ça fait réagir les députés de l'Occitanie, qui est la région dans laquelle on trouve aussi de nombreux autres produits du terroir. Et c'est les producteurs labellisés de type IGP, AOP, etc., qui sont réunis au sein de l'Institut régional de la qualité alimentaire d'Occitanie. Ils ont décidé eux aussi de monter au créneau pour demander à la Commission européenne d'être exemptée du système d'étiquetage Nutri-Score.
Ouais, intéressant. Et l'article, il prend d'ailleurs un exemple très parlant. C'est un miel des Cévennes qui est noté C. Sauf qu'on ne peut pas demander aux abeilles d'aller butiner des fleurs au nectar moins riche en sucre, en fait. Ça n'a pas de sens.
Oui, tout à fait.
Alors, Kelly, toi, tu es une experte du goût et de la transformation des produits. Est-ce que d'abord, tu peux nous expliquer comment les Nutri-Score fonctionnent ?
Alors, le Nutri-Score, c'est un score nutritionnel qui est calculé à partir de la table nutritionnelle. Vous savez, c'est ce qu'il y a derrière les produits alimentaires, le tableau avec les gras, les sucres, les sels. Et donc, il faut bien comprendre en fait que c'est une formule mathématique, donc c'est assez opaque. Ça, le consommateur n'a pas forcément, accès à ce calcul. Mais il y a des points positifs, des points négatifs. Donc, les points positifs, c'est les protéines, les fibres, les fruits et légumes qui d'ailleurs ne sont pas écrits dans ce fameux tableau. Et de l'autre côté, on a les acides gras saturés, le sel, le sucre. Et donc, c'est une formule mathématique qui finalement synthétise la qualité nutritionnelle en 5 notes de A à E, en passant du vert au rouge. Et c'est censé vraiment représenter uniquement la qualité nutritionnelle. Mais le problème, c'est que les consommateurs perçoivent ça comme une qualité globale de santé.
Et du coup, qu'est-ce que toi, tu penses de la situation de ces régions, de ces députés qui vont monter au créneau pour défendre les produits du terroir, les produits IGP, AOP, etc. Est-ce que finalement, on pourrait dire que tous les produits n'ont pas besoin d'avoir un étiquetage Nutri-Score obligatoire, quoi ?
Mais tout à fait. De toute façon, là, clairement, hein, on touche vraiment aux limites du Nutri-Score, puisque, comme vous l'avez dit, en fait, on va forcément toucher à des produits, des catégories de produits comme les charcuteries, les fromages, qui sont naturellement riches en sel, en matière grasse. Et tant mieux, parce qu'en fait, si ça ne l'est pas, un jambon dans lequel on va enlever les sels, on va mettre plus de nitrites, par exemple. Donc, en fait, on met en danger clairement l'authenticité et les produits de terroir. Et ça, c'est très inquiétant. Donc, je pense qu'il faut simplement rassurer les gens et leur dire, enfin, tous ces produits, c'est vraiment des pépites françaises de notre patrimoine. Il faut en consommer dans des proportions raisonnables, mais surtout pas les baliser, les stigmatiser, parce que là, on va créer de la grosse confusion. Et c'est un vrai souci, je pense, de baliser les produits de terroir avec ce score. Et d'ailleurs, tous les autres produits, en réalité. Hein,
Bah, merci Kelly pour ces précisions. On va continuer donc avec un deuxième article sur les Nutri-Score. C'était sur The Conversation, lobby et alimentation, les aliments traditionnels, les nouveaux arguments des anti-Nutri-Score. Alors Olivier, cet article nous apporte une autre vision sur les Nutri-Score.
Oui, et en fait, c'est un article un peu en réponse à tout ce qui se passe, hein, au premier article, parce que c'est des choses qui ne se passent pas qu'en France. A priori, c'est des choses qui se passent aussi en Espagne, en Italie. Hein. Et dans cet article, Serge Ekberg, qui est à l'origine du Nutri-Score, et certains de ses collègues répondent justement aux arguments des défenseurs des produits locaux vis-à-vis du système de notation Nutri-Score. Alors, eux, ils estiment que cette tentative d'opposer Nutri-Score à un modèle alimentaire traditionnel correspond à une stratégie de désinformation. Donc, selon eux, en mettant en avant le fait que les charcuteries et les fromages font partie du paysage culinaire et gastronomique d'une région ou d'un pays, les lobbies cherchent à entretenir une confusion dans l'esprit du public. Donc, ils vont, pour eux, c'est désinformation. Et derrière ces actions-là, que ce soit en France, en Espagne, en Italie, c'est quelque part des lobbies agroalimentaires qui attaquent et qui vont aller voir les députés pour dire aux députés, aidez-nous à attaquer le Nutri-Score.
Ouais, c'est vrai, tu fais référence à l'Espagne et à l'Italie, c'est comme tu as évoqué, on a vu dans l'article tout à l'heure, les mêmes phénomènes se développent aussi en France, des élus défendent produits éleveurs de la région qui ont des produits mal notés sur les Nutri-Score. Ils interpellent directement les ministres de l'Agriculture pour proposer de retirer les Nutri-Score sur les produits avec une appellation d'origine. Mais les problèmes dans tout cela est qu'on ne peut pas juger la qualité d'une diète basée sur un seul aliment, mais plutôt sur la diète dans sa totalité. Les problèmes du Nutri-Score et son approche un peu trop ponctuelle. Il faut éduquer les consommateurs pour éviter qu'ils fassent un mauvais usage de cette information. Elle est utile dans la constitution d'une diète, mais à prendre en compte avec modération.
Oui, et c'est ce que disent les défenseurs du Nutri-Score et les auteurs de l'article. Ils admettent qu'au sein des charcuteries des fromages, une grande partie se trouve classée D et E en raison de leur teneur élevée en acides gras saturés et en sel, ainsi que de leur forte densité calorique. Par contre, selon eux, il s'agit cependant d'une pénalisation qui est intentionnelle ou nouvelle. Le classement est opéré en toute transparence et objectivité sur la base des données de composition de ces produits. Hein, grosso modo, le Nutri-Score fait la synthèse à votre place de toute l'étiquette avec tous les ingrédients qui sont sur le packaging.
Oui.
Donc, selon eux, c'est juste un algorithme qui traduit ce que vous êtes censé lire sur l'étiquette. Quoi.
Ouais, c'est sûr que des produits, comme on a évoqué tout à l'heure, qu'Ali a évoqué, c'est sûr que les fromages et la charcuterie, même des très bonnes qualités, doivent être intégrés à une alimentation des qualités variées. Les Nutri-Score classent plus favorablement tous les aliments qui sont pauvres en gras, sucre ou sel et riches en fibres, fruits et légumes, légumineuses et fruits secs à la coque. Mais cela ne veut pas dire que notre diète doit être composée exclusivement de ces produits-là.
Alors Kelly, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas constituer notre alimentation quotidienne exclusivement sur la base du Nutri-Score ?
Mais le Nutri-Score renvoie uniquement la donnée sur la qualité nutritionnelle, mais absolument pas sur le degré de transformation et le degré d'authenticité des recettes. Il faut savoir que on a quand même 50% de produits qui sont étiquetés A ou B au Nutri-Score qui sont ultra transformés. Pourquoi ? Parce que quand on a des Nutri-Score A ou B, ça veut dire qu'on a des fibres, on a des protéines, mais en fait, on ne dit absolument pas comment est-ce qu'elles sont obtenues. Ça peut être des fibres qui sont ajoutées, des protéines texturées, isolées. Et là, on bascule dans l'ultra-transformation. On n'est absolument pas dans une alimentation qui soit vertueuse et pour la santé et pour l'environnement. Donc là, le problème, c'est que si le consommateur oublie d'éveiller son sens critique et ne se fie qu'au Nutri-Score, il va faire des erreurs. Et ça, c'est, ben ça, il faut absolument que les consommateurs soient au courant de ça. Encore une fois, on a l'impression que c'est une note aussi entre vert et rouge. C'est tellement simplifié que le consommateur essaye de, enfin, fait confiance à cet étiquetage-là. Donc, c'est important d'avoir un discours clair sur le fait que c'est pas la qualité globale qui est représentée, que la partie nutritionnelle. Mais il y a quand même un truc qui est assez fou, c'est que les gens cherchent des produits qui soient équilibrés. Je vais prendre un fromage, je veux qu'il soit équilibré. Je veux prendre des céréales, je veux qu'elles soient équilibrées. Mais en réalité, c'est pas ça qu'il faut se dire. Je veux des céréales qui soient constituées de vraies céréales avec du sirop d'érable, par exemple, du vrai chocolat sans lécithine, sans arôme. Mais je veux pas des céréales qui soient A au Nutri-Score avec des fibres ajoutées, des vitamines ajoutées, parce qu'en fait, elles ont perdu toutes les propriétés au moment de la cuisson extrusion, par exemple, sur le cas des céréales de petit déjeuner. Donc, c'est d'ailleurs le docteur Anthony Fardet, il dit qu'il n'y a qu'un aliment qui est complètement équilibré, c'est le lait maternel. Tous les autres aliments ne sont pas équilibrés. Donc c'est bien ça, c'est choisir dans toute la diversité des aliments qui vont être équilibrés, mais à l'échelle du régime, de la semaine, de la journée, mais pas à l'échelle de l'aliment, ça c'est clair.
Oui. Et justement, parce qu'on évoque à chaque épisode, Kelly, avec Olivier, la difficulté pour les consommateurs aujourd'hui de faire ses choix avec tant des labels, des scores, des machins. On dit qu'il faut avoir un PhD pour bien se nourrir, en fait. Mmh. Toi, en tant qu'experte, quel conseil donnerais-tu aux consommateurs qui souhaitent mieux manger?
Déjà, il faut que le consommateur ait conscience que la qualité, c'est pluriaxe. On va effectivement avoir différents critères, différents axes de qualité. Maintenant, si on veut prioriser la santé et la santé globale, donc sa santé et la santé aussi des animaux, de l'environnement, là, la première chose qu'il faut regarder, c'est la qualité des ingrédients. Est-ce qu'ils ont été complètement purifiés, dénaturés, ou est-ce que c'est des vraies matières premières? Donc, la première chose, c'est l'authenticité des ingrédients simples que vous pouvez trouver dans vos placards, des recettes. En fait, c'est du bon sens. Hein. Dès que vous voyez quelque chose que vous connaissez pas, a priori, c'est pas forcément bon signe. Et après, effectivement, on peut essayer de chercher des choses plus ou moins en évitant les sucres, les sels, tant qu'on peut. Mais je pense que le docteur Anthony Fardet, il a établi trois règles d'or qui sont manger vrai, végétal, varié. Moi, je rajouterais vivant aussi pour cette dimension justement de produits au lait cru, des produits qui ont vraiment une typicité, qui ont du sens, qui sont bons pour soi et pour la durabilité des systèmes alimentaires. Et je pense que c'est aussi faire comprendre aux gens qu'il y a finalement il n'y a pas d'aliments tellement interdits. Il faut faire attention bien sûr aux aliments ultra transformés, mais si vous en consommez très peu, et que enfin il faut pas non plus tomber dans la frustration, faut garder du plaisir et faut pas non plus croire aux promesses miracles, parce que ça c'est pas raisonnable, en tout cas de croire qu'il y a des produits très très mauvais, des produits miracles. Je pense qu'il faut rester voilà, il faut rester lucide, il faut pas se raconter des salades, il faut être alerte aussi à la complexité, et puis après il faut faire aussi en fonction de soi, de l'adapter à ce qu'on aime manger. Comment est-ce que vous voulez faire manger plus de végétaux à des gens qui en ont jamais mangé de leur vie? Donc il faut aussi faire petit à petit, pas à pas, et puis voilà, changer les habitudes et prendre le temps pour chacun. Le temps viendra, mais je pense qu'il faut faire étape par étape, en tout cas.
Bah, merci, Kelly. Et on continue avec un acteur emblématique du secteur agroalimentaire, c'était sur Les Échos. Il faut sortir de la seule logique du profit. Tranche les patrons de la vache qui rit. Dans cette longue interview, le PDG du groupe Bell met en avant une vision originale de ce que doit être une entreprise à l'avenir.
Oui, il s'est notamment exprimé sur les attentes des consommateurs. Hein. D'après lui, certaines attentes des consommateurs ne sont pas atteignables de suite. Hein. Nous, en consommateurs, on voudrait parfois tout de suite, mais l'agroalimentaire et l'agriculture, c'est un temps un petit peu plus long. Et comme il l'explique, il dit bien, on nous demande d'être à la fois extrêmement responsable sur le plan écologique, d'avoir un passeport nutritionnel le plus sain possible, des produits les moins transformés possibles qui se conservent en dehors du réfrigérateur, tout en étant le moins cher possible.
Ouais, c'est vrai que les dernières années, les demandes des consommateurs, elles ont évolué d'une façon très rapide, en fait. Et aussi, il y a un autre point, tout à fait, comme il a dit, la sécurité alimentaire n'a jamais été aussi forte et importante, mais on sent une forme de défiance vis-à-vis de l'agroalimentaire. C'est qui nous pousse à nous questionner et c'est qui pousse aussi les consommateurs à être très exigeants envers les industriels.
Oui, et du coup, selon lui, pour se conformer à toutes ces demandes, cela suppose d'innover et cela prend du temps. Parce qu'une entreprise oui. comme le groupe Bell, hein, forcément, oui. Elle n'est pas en mesure, quelque part, de changer toutes ses lignes de production du jour au lendemain.
Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on a tendance à être souvent critique et méfiant des industriels de l'agroalimentaire. Quand on pense avec la casquette consommateur bouffe, c'est tout à fait normal. Mais si aussi on arrive à mettre une casquette business, il faut savoir se mettre à leur place et comprendre que certains changements pour des entreprises de cette taille-là sont difficiles à implémenter et prennent du temps. Sauf que les risques pour ces groupes comme Bell, c'est que la demande des consommateurs est en train d'évoluer très rapidement, parfois même plus rapidement que leur capacité à s'adapter. Donc si Bell fait des efforts pour se développer avec sa gamme des produits non laitiers, l'ADN du groupe reste quand même les produits laitiers qui ont un peu moins la cote aujourd'hui, notamment avec des Nutri-Score moins flatteurs.
Oui, et selon lui, c'est en partie le gras qui donne son goût au fromage, hein, forcément. Et aussi dans l'alimentation, on sait que le triptyque de l'alimentation, c'est le gras, le sel, le sucre. Donc forcément, s'il y a du gras, ça a un mauvais Nutri-Score. Et du coup, comme pour le consommateur, le goût reste important, bah forcément, il y a une influence sur le score Nutri-Score. Hein. Il donne un exemple. Le Nutri-Score, pour lui, d'une part, il se base sur des portions de 100 grammes, quel que soit le produit que vous consommiez. Donc ça, je le découvre, hein, je ne le savais pas.
Je ne savais pas non plus.
Et comme il explique, finalement, 100 grammes pour un groupe comme Bell, ça correspond par exemple à 5 Babybel. Et comme il dit, personne ne mange 5 Babybel par jour.
Ah, j'en connais certains qui en mangent 5 faciles. Mais bon, plus sérieusement, pour les PDG de Bell, à terme, les laitiers et les végétales doivent cohabiter pour pouvoir nourrir les futurs 10 milliards d'habitants de notre planète. Selon lui, nous ne sommes pas dans un monde du « ou », mais du « et ». Il faut faire les deux, il faut que ça cohabite. Je pense qu'il a raison là-dessus.
Et surtout dans cette interview, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il donne une vision un peu nouvelle de la responsabilité sociétale, on pourrait dire, d'une entreprise, la fameuse RSE. Il précise notamment la manière dont son groupe contribue à développer une filière laitière plus durable. Forcément, hein, pour lui, si son groupe veut rester dans le lait, il faut qu'il y ait des éleveurs qui lui apportent du lait encore dans 20 ans. Hein,
oui,
et on sait qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui vont partir à la retraite, qu'il y a une génération à séduire, etc. etc. Donc finalement, comme il dit bien, on ne peut pas se satisfaire de voir un monde agricole qui souffre, qui ne suscite plus de vocation, des entreprises agroalimentaires qui sont à la peine et une grande distribution qui cherche trop à se différencier par le prix et qui ne roule pas sur l'or non plus. Donc selon lui, il faut sortir de la seule logique de profit, sinon nous allons nous autodétruire.
Bah, c'est un discours que me parle et je pense qu'il parle à nos auditeurs aussi, mais c'est aussi la force d'un groupe familial qui a une vision à long terme, présidée à chaque fois par un membre de la famille. Donc la principale préoccupation n'est pas forcément la rentabilité au court terme, mais plutôt de transmettre les patrimoines à la prochaine génération.
C'est un discours qui rappelle un peu le discours qu'avait eu Emmanuel Faber, sauf que Emmanuel Faber, Danone, était coté en bourse. Hein,
voilà,
donc
c'est
on
pas
a
pareil.
Vu ce que ça a
les
donné.
Les attentes ne sont pas pareilles.
On a vu ce que ça a donné. Là, Antoine Fievé, c'est un groupe familial. Effectivement, bon, il y a une partie qui est cotée en bourse quand même, mais ils veulent sortir l'entreprise de la cotation boursière. Et pour aller plus loin aussi là-dedans, en fait, ce qu'il a annoncé, c'est une gouvernance qui va être dissociée. Donc lui, il va mettre de côté son poste de PDG. Il sera juste président. Et c'est Cécile Belliot, qui est arrivée dans le groupe il y a 3 ans, qui va opérer les changements et la transformation du groupe vers ce capital responsable et durable.
Attendons pour voir.
Ce capitalisme.
Et en plus, comme Lactalis est sorti du capital d'Evel récemment, je pense que ça leur donne plus de marge de manœuvre pour opérer ces changements-là.
Voilà, c'est suite à la vente de l'air d'Hammer, de l'échange, donne l'air d'Hammer, tu sors du capital.
Tout à fait. Alors Kelly, quel conseil donnerais-tu aux consommateurs qui souhaitent remplacer les produits laitiers par des alternatives végétales?
Le problème de ces alternatives végétales, malheureusement, c'est que malgré la connotation verte plus saine, on a souvent à nouveau des aliments ultra transformés. Et en fait, pourquoi? Tout simplement que si on veut, par exemple, reproduire un lait, le lait de vache, il est naturellement en fait riche en plus de gras, en protéines. Le produit, il est stable. Mais si je fais la même chose avec du lait d'amande et de l'eau, eh ben en fait, je suis obligée de rajouter généralement un texturant pour que j'ai cette même homogénéité. Sauf que en fait, les industriels pourraient tout simplement écrire ce coût avant l'utilisation et on serait pas obligé de mettre ces texturants. Mais voyez, ça veut dire qu'en fait, il faut un peu changer les habitudes et même les habitudes en termes d'attente du goût. Je pense aux galettes végétales qui veulent recopier la viande. Ça laisse entendre que certaines personnes préfèrent, par frustration, en fait, s'interdisent de prendre de la viande et s'orientent vers ce type de produit. Ils veulent retrouver exactement le même arôme, la même texture. Ouais, mais c'est pas possible. Si j'ai du végétal, si j'ai des farines de pois chiches mélangées avec des céréales, je peux pas retrouver des fibres de viande. Je suis obligée de passer par des ingrédients comme des protéines texturées. Et là, on est ultra transformé. Donc, je pense qu'il faut accompagner aussi. Les gens doivent être curieux de découvrir ce que c'est que le goût d'amande, le goût des légumineuses, et pas chercher à retrouver les goûts des produits laitiers, parce que en fait là on va pas s'en sortir. C'est créer une nouvelle offre plus végétale, ça il faut dans tous les cas, c'est évident. Mais je pense que voilà, s'il n'y a pas d'allergie, d'intolérance, il vaut mieux manger beaucoup moins de ces produits-là, mais de grande qualité, plutôt que s'orienter vers des alternatives généralement ultra transformées, ça c'est sûr.
On est assez d'accord. On va continuer, Kelly Olivier, à parler des marques de l'agroalimentaire avec un article paru sur Le Figaro. Les marques se mettent au vrac, mais à tâtons. Il était temps, Olivier, de quelles marques parle l'article ?
Oui, alors c'est des marques qui sont présentes à la fois dans des supermarchés de type Franprix, hein, pour pas le nommer, ou alors chez Day by Day. Mmh. Alors on parle de Panzani, de Kellogg's, de Benenos, de Carte Noire, Ebly, Oncle Ben's, Toro Ellé. C'est des marques qui sont connues du grand public.
On les connaît,
hein,
ouais.
Hein, et elles essayent toutes finalement de se lancer dans le vrac. Mmh. Hein, donc bon, avec plus ou moins de réussite, on va dire, et plus ou moins de difficultés.
Oui, bah, a priori, c'est une bonne nouvelle. Hein. Les vracs à la côte, j'en suis ravi. La demande de consommateurs ne cesse d'augmenter, que ce soit des produits alimentaires, produits d'hygiène ou même des produits ménagers. On a de plus en plus des choix en tant que consommateur. En 2021, les emballages, c'est ringard quand même.
Ouais, comme l'explique l'article, finalement, ces marques, elles sont conscientes de l'attrait des consommateurs pour ce mode de distribution en vrac.
Oui, ça va sur les chiffres.
Et il y a une volonté clairement affichée chez les consommateurs de réduire l'impact environnemental des produits, que ce soit pour les grandes marques ou pour les plus petites. Hein, et il va falloir que tout le monde s'y mette pour répondre à cette demande de moins d'emballage, des produits avec moins de plastique, des choses comme ça.
On a mené, ça me fait penser, on a mené une enquête sur le compte Instagram de Business of Bouffe en septembre 2020. Et on posait la question si nos auditeurs, nos followers, ils achetaient un vrac. Et 74% ont dit oui. Et en fait, les réseaux vrac estiment déjà que les marchés du vrac valaient 1,3 milliards d'euros en 2020 et qui va doubler d'ici 2022. Donc évidemment que le marque bouge parce que les consommateurs demandent ces types de produits. Cependant, la majorité achète leurs produits en vrac en magasin bio, comme on a vu aussi auprès de notre communauté Instagram. Et la principale raison est que les enseignes bio ont été assez avant-gardistes en fait sur les sujets, parce qu'au début on retrouvait ça que dans les magasins bio, et au fur et à mesure la grande distribution a suivi, et maintenant c'est les marques qui suivent les mouvements.
Oui, et puis on a aussi parlé il y a quelques semaines de la fameuse loi qui va imposer aux grandes surfaces de faire du vrac. Donc
c'est quoi, 20% de...
Ouais. Donc il va aussi falloir qu'ils s'adaptent. Et clairement, il faudra que les grandes marques proposent du vrac, puisque sinon, dans les supermarchés, ça va être compliqué.
Ouais, d'accord.
Et du coup, on a d'un côté Lustucru, Michel Augustin, qui sont entrés chez Day by Day. Par contre, selon l'article, l'objectif de ces deux marques, initialement, c'était de tester l'intérêt et la réponse des consommateurs, mais aussi le modèle économique. Parce que le modèle économique, il n'est pas encore très clair pour ces marques-là. Hein.
Mmh, je comprends.
Parce que, en fait, pour eux, il va s'agir de réinventer la manière dont elles attirent les clients.
Oui.
Parce que, en fait, comme il n'y a plus d'emballage, on ne peut plus faire la pub de son produit.
Mmh.
Donc, pour elles, c'est leur... quand même leur support favori de communication, hein, l'emballage. Donc, c'est vraiment se réinventer, trouver une meilleure manière de parler de son produit. Donc, une autre difficulté qui est mise en avant dans l'article, c'est la taille des meubles en magasin qui, de fait, limite le nombre de références dans les linéaires.
Tout à fait.
Hein, on voit bien que un linéaire de vrac, il y a beaucoup moins de produits que dans un linéaire classique.
C'est clair.
Il y a des coûts logistiques qui augmentent, parce qu'il faut des étapes supplémentaires avec des contenants dédiés. Il faut des produits vrac, un souci de cohérence aussi. Ouais. Parce que moi, je suis consommateur. Si je vais acheter en vrac, j'emmène mon contenant ou pas, ou dans un petit sac. Et j'espère quand même qu'on me le vend moins cher que le produit emballé. Ce qui, c'est logique en tant que consommateur de se dire j'achète sans emballage, ça me coûte moins cher.
C'est clair. Bah, je pense que c'est ce que tu disais. C'est un véritable défi pour ces marques-là d'un point de vue marketing d'abord, mais aussi d'un point de vue logistique. Il faut qu'elles repensent l'intégralité de leur système de production. Elles ont en effet l'habitude de stocker, transporter leurs produits dans plusieurs couches d'emballage pour certains. Si elles décident de passer au vrac, il faut qu'elles les fassent à fond et sincèrement. On a évoqué l'autre jour, je ne sais pas si nos auditeurs s'en souviennent en fait, mais en avril, il y avait Saint-Michel qui avait fait polémique avec des biscuits vendus soi-disant en vrac, mais avec un emballage en plastique individuel. Les marques doivent faire attention au vrac washing, Olivier.
Et oui, et l'autre problème finalement, c'est aussi côté des distributeurs, c'est comment eux mettent en place le vrac. Le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a une rotation produit qui est en moyenne 3 fois plus faible que pour les produits emballés. Donc ça, je ne savais pas non plus, mais
non.
C'est effectivement, si tu vends moins, au mètre carré, c'est moins intéressant.
Oui.
Il faut aussi prévoir de la main d'œuvre supplémentaire pour approvisionner ces bacs, pour laver les bacs et aussi pour ramasser tous les produits qui sont tombés par terre. Ils ont ouvert trop vite.
Et finalement, peut-être, ça va coûter plus cher à l'industriel de proposer des produits en vrac que proposer des produits avec 3 couches d'emballage.
Ouais, c'est
un peu le paradoxe du système. Alors, Kelly, toi, tu penses quoi de ces industriels qui se mettent au vrac?
Moi, comme vous, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle, ne serait-ce que pour avoir la bonne portion, pour moins gaspiller, mais aussi pour éveiller la curiosité. Tu vas plus facilement, par exemple, si tu connais pas les lentilles corail, en prendre un petit peu et puis tu reviendras en prendre plus plutôt qu'acheter un gros paquet. Ça, moi, je trouve que c'est super. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur le marketing, c'est hyper intéressant parce que là, du coup, si on n'a plus les emballages, faut voir aussi qu'on n'a plus toutes les promesses marketing aussi qui peuvent induire en erreur. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Après, faut faire attention parce que là encore, ça dépend quel produit on met en vrac. Et évidemment, on peut aussi avoir des aliments ultra transformés qui se retrouvent en vrac, des biscuits, des céréales, etc. Beaucoup moins de problèmes sur tout ce qui est légumineuses, céréales. Et d'ailleurs, moi, j'avais observé dans un magasin bio un produit que j'avais l'habitude d'acheter emballé, et c'était pas la même recette en vrac. Donc voilà, je pense que c'était pas la même recette et il me semble qu'il y avait il y avait un peu plus de marqueurs d'ultra transformation parce que oui ça m'arrive de prendre des céréales du petit déj pour
faire plaisir.
Non mais bon en fait il faut juste en avoir conscience, je pense qu'il y a pas de mal à en consommer, il faut juste pas se raconter de bêtises genre là c'est un aliment ultra transformé, mais en l'occurrence c'était dans un magasin bio et je pense qu'il y a aussi un enjeu de conservation pour pas que les céréales rancissent, à mon avis, ils mettent des choses en plus, puisqu'effectivement, c'est en plein air, t'as le contact avec l'oxygène qui est quand même assez direct, quand c'est dans les bacs en vrac. Donc, je pense qu'il y a un enjeu aussi de conservation, mais voilà, en tout cas, c'est top, tant mieux, et j'espère que s'il n'y a pas les promesses marketing, la liste d'ingrédients sera en grand et sera plus facilement observable, parce qu'en fait, tu appuies sur la manette et puis pendant ce temps-là, tu regardes la liste, quoi. Ou avant, à voir.
On va passer maintenant à un sujet géo-gastro-diplomatique. C'était sur Le Figaro. La guerre de la saucisse jette un froid entre Londres et les Européens. Oh, hisse la saucisse, Olivier, ça chauffe entre les Royaumes-Unis et la France.
Et oui, et on se rend compte que la saucisse, ça peut être aussi source de gastro-diplomatie.
Il m'a fait beaucoup rire cet article.
Et dans le cas précis, finalement, la saucisse, elle est au cœur de l'accord du Brexit et de son application.
Parce qu'en fait,
l'article nous explique que l'Angleterre refuse pour le moment de mettre en place les contrôles sur certaines marchandises, notamment la viande réfrigérée. Le pays affirme que ça pourrait faire disparaître les saucisses et nuggets de poulet britanniques des rayons des supermarchés nord-irlandais.
Un vrai drame, Olivier.
Ouais, pauvre Nord-Irlandais.
Mais c'est qu'il faut savoir qu'avec les Brexit, des contrôles douaniers ont été imposés à certains échanges entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Car l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni et l'Irlande de l'Europe. Pour éviter de mettre en place une nouvelle frontière entre les deux pays et raviver les conflits du passé, on a opté pour les maintiens de l'Irlande du Nord dans les marchés uniques européens et la mise en place des contrôles douaniers sur les biens arrivant depuis la Grande-Bretagne qui fait partie du même pays. Ça n'a aucun sens. Et ces mesures perturbent du coup l'approvisionnement des saucisses anglaises en Irlande du Nord.
Oui, et Boris Johnson, qui était tout colère, hein, qui a même lancé à Emmanuel Macron, comment le prendrais-tu si la justice française t'empêchait de transporter des saucisses de Toulouse à Paris? Ce à quoi le président Macron, il aurait répondu que ça ne pouvait pas arriver puisque Paris et Toulouse font partie du même pays. Et donc, évidemment, les Anglais l'ont mal pris puisque l'Irlande du Nord et l'Angleterre, on va le dire, font partie du même pays qui est le Royaume-Uni.
C'est ça qui aurait rendu furieux les premiers ministres Boris Johnson. Alors Kelly, rien à voir, mais toi tu es plutôt chipo ou merguez toi?
Ah bah moi je suis knack moi. Moi je prends évidemment le plus possible des saucisses de porc fermier. Enfin franchement en termes de goût ça a rien à voir et toujours bien demander s'il n'y a pas de nitrite, de dextrose parce qu'on peut nous mettre un peu tout et n'importe quoi mais voilà toujours bien un produit fermier c'est quand même mieux.
On est d'accord. On va continuer avec nos amis les Anglais puisqu'on s'intéresse à un article de la BBC qui fait un tour d'horizon des startups food tech dans les secteurs de l'apiculture. Tech firms use remote monitoring to help honeybees. Les entreprises de technologie utilisent la télésurveillance pour aider les abeilles. Alors Olivier, raconte-moi comment ça marche en fait.
Ouais, hein, t'as vu, on est...
Génial cet article.
C'est des business of bouffe. Hein.
Ah, c'est encore un business de la bouffe.
C'est comment on fait du miel finalement, mais du miel technologique.
Ouais.
Hein, donc il y a plusieurs startups qui se sont lancées sur ce créneau-là, qui est un créneau de niche. Hein, mais
oui.
Moi, j'en ai étudié quelques-unes pour une étude qu'on m'avait commanditée en début d'année et je trouvais ça très intéressant. Alors il y a par exemple...
C'est pas toi qui a écrit l'article de la BBC.
Non, c'est pas moi, non, malheureusement. Donc il y en a une qui s'appelle Best Bees et qui installe des ruches sur des propriétés commerciales ou résidentielles à Boston, aux États-Unis. Et en fait, pour surveiller la santé de ces colonies d'abeilles, donc la colonie d'abeilles, c'est une abeille, c'est l'abeille et toutes ses consœurs au sein de la ruche. Il y a parfois plusieurs ruches. Mmh. L'entreprise, elle utilise un système logiciel avancé. Et les données, elles sont partagées ensuite avec des chercheurs de Harvard et du MIT. Hein, donc, ça rigole pas. Les abeilles, elles sont bien surveillées par des chercheurs afin de les aider à mieux comprendre la situation critique des abeilles. Et donc, Best Bees, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont rémunérés par les propriétaires et les entreprises. Ils vont récolter, mettre en bouteille le miel pour que les entreprises après puissent le récupérer.
Ouais, les projets très intéressants parce que aider les scientifiques à avancer dans la recherche et en même temps récolter du miel, c'est tout bénef en fait. D'autant plus que les ruches américaines ne se portent pas très bien, voire très très mal. Une enquête a montré qu'entre avril 2019 et 2020, plus de 40% des ruches américaines ont été perdues à cause d'un usage intensif des pesticides. Et nous savons tous l'importance des abeilles dans la bouffe. Les trois quarts de l'approvisionnement alimentaire mondial dépendent de la pollinisation des cultures.
Oui, il y a une autre start-up qui s'appelle Apis Protect cette fois-ci.
Apis Protect.
Qui fabriquent des capteurs sans fil qui sont cette fois disposés à l'intérieur des ruches et qui vont collecter et transmettre des données sous forme de tableaux de bord en ligne. Hein. Et comme l'explique Fiona Edwards, la directrice générale, nous recueillons des données sur la température, l'humidité, le son, l'accélération des abeilles qui s'envolent de la ruche.
Hein.
Ça va très loin. Hein.
Ouais.
Et elle précise que ça permet de dire à l'apiculteur quelles ruches sont en croissance, quelles ruches sont en décroissance, quelles ruches sont vivantes, quelles ruches sont mortes. Il faut savoir aussi que l'apiculteur, il a des ruches à un endroit qui ne sont pas forcément à côté de sa maison.
Oui.
En fait. Donc, ça lui permet de faire ça à distance et d'y aller s'il y a problème.
Ça lui apporte de l'intelligence et c'est tant mieux pour lui.
Oui, ça économise du carburant hein, parce qu'il n'a pas besoin de prendre sa voiture pour y aller. Donc, c'est aussi bien pour la planète.
Et ça facilite, améliore la qualité de son travail, en fait. Parce que souvent, ils ont plusieurs ruches à gérer aussi. C'est comme tu dis, elles ne sont pas une à côté de l'autre. Parfois, il y a les plus grosses entreprises apicoles aux US. On retrouve même plus de 90 000 ruches. Donc, comment tu gères tout ça, en fait? Ça représente beaucoup de main-d'œuvre et des temps. Donc, pour certains, ces technologies ont permis de réduire jusqu'à 50% les coûts des main-d'œuvre. C'est colossal.
Oui, on a une autre startup qui s'appelle BeWise, qui est cette fois une startup israélienne, qui elle cherche à réduire encore davantage le besoin d'intervention humaine. Elle a créé BeHome, qui est une sorte de grande boîte alimentée par énergie solaire qui peut abriter jusqu'à 24 ruches en même temps. Et elle est capable de fonctionner de manière autonome, en fait, c'est ça qui est intéressant. Vous la pilotez via votre smartphone ou votre iPad, et chaque biome, elle est équipée d'un ensemble de caméras, de capteurs, de bras robotisés qui vont prendre en charge toutes les actions qui autrement nécessiteraient une intervention humaine, en fait. Donc c'est vraiment de l'élevage d'abeilles automatisé, hein, on peut dire ça comme ça. Mmh. Et finalement, c'est grâce à ce système, les seules actions nécessitant une intervention humaine sont de s'assurer que les abeilles ont accès à une source de nourriture et d'eau et d'aller récupérer le miel récolté par la machine. Mmh. L'article, il parle également d'un autre projet de technologie apicole encore plus futuriste cette fois-ci. C'est un projet pan-européen qui s'appelle Iveopolis, qui étudie la possibilité de placer de minuscules robots dansants à l'intérieur des ruches pour influencer le comportement des abeilles. Donc on va très très loin dans la technologie, hein, c'est assez intéressant.
On pourrait même parler de l'apiculture robotisée. Ouais. Moi je suis pour, après il faut juste faire attention à ne pas tomber dans les pièges du tout automatisé et finir avec un modèle d'apiculture déshumanisé et déconnecté de la terre et des abeilles.
Alors Kelly, le miel c'est un produit qu'on aime tous, hein. Est-ce que c'est un produit à consommer avec modération et est-ce que tu as une idée pour remplacer le sucre par le miel par exemple dans une recette ?
Bah, tu as très bon exemple parce que le miel, ceux qui ont une approche vraiment réductionniste, nutritionnelle te diront bah c'est très sucré, c'est que du sucre, mais en réalité le miel c'est pas du tout que du sucre, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des antifongiques et c'est ce qui fait que le miel n'est pas délétère pour la santé, parce qu'il y a quand même majoritairement du fructose, et on sait que le fructose est mauvais pour la santé, mais du fait de l'environnement, de ses composés bioactifs, bah en fait, le miel, il est même protecteur, donc c'est un super aliment. En plus, c'est super bon, il y en a toutes variétés, et c'est un vrai produit naturel. Et du coup, bah oui, dans des recettes alors plutôt crues, parce que du fait que ce soit un produit vivant avec des antifongiques, bah dès que tu vas le cuire, tu vas tuer les antifongiques. Donc oui, à remplacer par du saccharose, sucre de table dans des gâteaux, bah finalement oui, tu vas, en fait ça va être intéressant parce que ça a un pouvoir sucrant plus important, donc tu pourras en mettre un peu moins et ça va sucrer quand même beaucoup. Donc, mais par contre, tu n'as plus le côté antifongique dans un gâteau. Quoi.
On poursuit sur la food tech avec cette fois-ci le vin. C'était sur Lobs, quand les high-tech mettent les vins en bouteille. Olivier, on finit avec un article dédié à la wine tech.
Oui, et c'est un article qui fait le point en fait sur les dernières avancées technologiques dans le secteur du vin. Hein. On sait que c'est un secteur qui n'est pas forcément très technophile. Comme l'explique l'article, les accessoires connectés liés au vin se sont multipliés en quelques années finalement. Hein. Et suite au confinement successif de 2020-2021, Dominique Gandhi, qui est directeur d'activité Blanc et Cuisine pour Fnac Darty, il explique que l'électroménager plaisir est très en vogue et a même connu une apogée en 2020, notamment les caves à vin.
Oui, on a vu dans l'article, on évoque plusieurs choses. Hein. L'appli pour trouver des accords mets et vins, aérateur des vins express intelligents, cave connectée ou encore alerte sur les smartphones pour déboucher un grand cru au bon moment. L'innovation technologique est très présente dans les mondes du vin, Olivier. Et ça peut même aider à démocratiser la dégustation. Selon l'édition du baromètre 2021 des So Wine, 51% des Français se considèrent aujourd'hui comme des amateurs éclairés. Un petit peu d'excès de confiance pour les Français. Même si ça semble un peu excessif, c'est donc pas étonnant si la tech s'invite de plus en plus dans cet univers pour les rendre des plus en plus démocratique aussi.
Oui, et du coup, ce que je disais hein, sur les caves à vin, il se trouve que les caves à vin connectées, elles ont par exemple vu leur vente s'envoler de 316% l'an dernier. Hein, les gens, ils se sont fait plaisir, ils n'ont pas pu voyager.
À partir d'une base quand même très très faible. Hein, c'est pas
un d'une base
marché,
faible, c'est sûr. Mais, et l'article parle notamment de la dernière née dans ce domaine, qui est une cave de la sommelière, qui est une cave intelligente, made in France, et finalement, en fait, elle est pilotable depuis son smartphone. Donc, elle peut accueillir jusqu'à 185 bouteilles. Et chaque emplacement, il y a un capteur qui est relié à l'application dédiée. Et chaque ajout ou retrait d'un vin, il est automatiquement détecté, indiqué sur le smartphone. Et donc, il est possible de connaître sous forme de graphique, tableau de bord, en temps réel, le contenu de sa cave. Et selon la sommelière, ça répond à une vraie demande des consommateurs qui avaient toujours du mal à savoir quel vin ils avaient dans leur cave, etc. etc.
Oui, quoi. Pour certains qui font garder leur vin, c'est très intéressant. L'application même permet, grâce à une simple photo, en fait, d'identifier les bouteilles et d'accéder à une fiche détaillée et personnalisable, chaque bouteille ainsi identifiée avant d'être enregistrée à son emplacement précis. Et oui, parce que l'application nous conseille sur les meilleurs emplacements dans la cave pour optimiser les vieillissements et elle alerte même les propriétaires de la cave lorsque les vins sont arrivés à leur date d'apogée. Bah, c'est génial en fait, on n'a plus besoin de sommelier.
Tu vois, si tu achètes 10 bouteilles et que tu as 10 bouteilles à l'apogée en même temps, bah, il va falloir les boire.
Il va falloir les boire en même temps, mais il paraît que la cave peut faire ça pour vous aussi, elle peut boire les vins. Elle est lentement pas mal à la tête. Je rigole Olivier, mais quand même c'est fou toutes ces fonctionnalités. Par contre, pour cette cave intelligente, il faut compter quand même près des 4000 euros, donc c'est pas donné. Kelly, on sait que les étiquettes des vins affichent très peu d'informations en fait. Et malheureusement, souvent, on peut retrouver des éléments vraiment délétères pour la santé. Comment expliques-tu cette situation et comment les consommateurs peuvent s'assurer de choisir une bonne bouteille ?
Bah oui, tout à fait, parce qu'en fait, la réglementation qui régit les alcools et les spiritueux, c'est pas la même que le règlement INCO. Et donc du coup, ils sont pas obligés d'écrire la liste d'ingrédients. Donc on sait pas, on a une petite mention contient sulfite, mais il faut la chercher. Ça, les sulfites, oui. C'est quand même, on le sait, un additif même évalué à risque. Hein, donc ça, c'est vrai que c'est ce qu'il faut éviter le plus possible. Après, il y a tous les auxiliaires qui peuvent être utilisés pendant la vinification. Donc tout ça, bien sûr, c'est très opaque. Là-dessus, il y a beaucoup de choses à faire, à mon avis. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de choisir au maximum ce qu'on appelle des vins nature. Là encore, il y a un peu à boire et à manger, c'est le cas de le dire, mais choisir, ouais, les bouteilles, à mon avis, sans sulfite ajouté, ou en fait, tout simplement, on sait un peu d'où ça vient, par qui c'est fait, des choses pleines de bon sens, avec des gens qui ont vraiment une philosophie de travail qui soit cohérente et complète, quoi. Je pense que.
Parfait, bah on est entièrement d'accord, Kelly. On finit avec les réseaux sociaux, et tout d'abord avec un acteur du gel des douches. Qui se lance dans la bouffe? C'est quoi cette histoire?
Oui, j'ai découvert ça, j'étais assez étonné. Hein. On connaît tous les gels douches Ushuaïa. Hein,
ouais. qu'est-ce qu'ils font?
Je découvre qu'Ushuaïa se lance dans l'alimentaire avec pas mal de produits, hein, des dosettes de café, du chocolat, des jus de fruits même, j'ai l'impression.
Ouais, c'est...
Donc j'ai vu ça sur c'est un tweet de Valentin Hochet, donc j'étais assez surpris. Hein. On attend de voir ça en rayon et éventuellement de tester.
Il faudrait voir.
Ouais, c'est ça.
On ne sait pas si Nicolas Hulot va encore toucher des royalties sur les produits alimentaires.
J'en sais rien, mais ça m'a pas mal surpris et fait rire. Je pense qu'en termes de crédibilité, c'est pas les tops là.
Bah, tu pourras te doucher avec du chocolat.
Bah, voilà. et alors on a Kelly un tweet. Je pense que c'est quelque chose qui nous a marqué tous et je pense que ça t'a pas mal plu. C'est Cristiano Ronaldo et Coca-Cola. C'est quoi cette histoire,
bien
Olivier
sûr.
Oui, bah, je pense que maintenant, on l'a tous vu, hein, cette petite vidéo de Cristiano Ronaldo en conférence de presse pendant l'Euro, où en fait, finalement, Coca-Cola est un des sponsors de l'Euro. Donc,
oui.
À chaque fois qu'il y a un joueur, il a devant lui deux bouteilles de Coca. Il a parfois même une bouteille d'Heineken et une bouteille d'eau. Et donc, Ronaldo prend les deux bouteilles de Coca, les met de côté, prend la bouteille d'eau et dit « buvez de l'eau, pas du Coca ». Donc, ça, c'était pas une pub pour Coca, hein, évidemment. Ouais. Bon, après, la bouteille d'eau, il paraît que c'est une bouteille d'eau qui appartient à Coca quand même. Donc,
oui, mais bon, ça t'a plu, ça, Kelly, non ?
Ah ouais, c'est fort. Non, mais c'est fort. Quand on sait à quel point il est suivi, regardé, là, c'est le meilleur influenceur pour boire de l'eau. Là.
Cristiano Ronaldo, c'est lui qui a le plus grand nombre de followers au global sur les réseaux sociaux, tout simplement.
Hein. Oui. Et la bourse, bon, l'action Coca a perdu 1% en 2 jours, c'est pas non plus énorme.
Oui, mais ça fait son effet quand même.
Et...
Alors, il y a eu beaucoup de suppositions là-dessus.
Oui,
comme
ça,
quoi,
1% Coca, c'est une variation qui peut arriver.
4 milliards
n'importe.
À cause de Ronaldo.
Non.
Et bon, c'est le cours de bourse qui est comme ça. Je pense pas que ce soit lié, mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce genre de message. Alors, après, on a vu d'autres footballeurs dans les jours qui ont suivi le faire. Je ne sais pas si vous avez vu Pogba qui a mis de côté
Heineken,
la bière.
Ouais.
Bon.
Mais c'est que dit Kelly, en fait, ces joueurs sont très suivis par les jeunes. Donc, avoir un geste comme ça, c'est un petit pas pour Cristiano Ronaldo, mais c'est un grand pas pour l'humanité. S'il peut contribuer à faire baisser la consommation des coca, je pense qu'on est tous gagnants.
Bah, la prochaine étape pour Cristiano, c'est de ne pas venir avec une bouteille d'eau en plastique, c'est de venir avec une gourde et buvez de l'eau dans votre gourde, tu vois. C'est...
Tu dis quoi, Kelly, pardon ?
Non, pardon, je disais surtout qu'il s'adresse, je pense qu'il est suivi par des populations pas forcément aisées donc, et qui sont très consommatrices de Coca-Cola. Donc là, c'est vraiment très très fort parce qu'il donne vraiment un bel exemple.
Super. Bah, Olivier, Kelly, merci beaucoup pour cet épisode des It's Business.
On se retrouve
la semaine prochaine. Kelly, tu ne seras pas avec nous malheureusement, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Salut Daniel, au revoir à tous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
Bonne semaine et à bientôt !